L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon.
Bonjour et bienvenue dans l'envie de lire sur Radio Shalom Bourgogne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Diable au corps, un roman écrit par Raymond Radiguet et paru en 1923, qui raconte l'histoire d'amour entre un jeune homme et une femme dont le mari est mobilisé sur le front dans le cadre de la Première Guerre mondiale. L'auteur Raymond Radiguet est assez peu passé à la postérité, notamment car il est mort très jeune, à seulement 20 ans et qu'il n'a donc eu le temps d'écrire que deux romans, Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, qui reste d'ailleurs inachevé. Ce seul roman complet de Radiguet nous raconte donc l'histoire du narrateur, un jeune homme d'une quinzaine d'années qui va entretenir une liaison avec Marthe, une femme de 18 ans dont le mari, Jacques, est mobilisé sur le front de la Grande Guerre. À sa sortie moins de 5 ans après l'armistice de 1918, le roman va scandaliser notamment auprès des anciens combattants et de leurs familles. Le ton léger du roman, au vu du contexte de la guerre, apparaît comme indécent. Dès l'introduction, le narrateur décrit par exemple les 4 années de 1914 à 1918 comme « les 4 ans de grandes vacances ». L'auteur anticipe par ailleurs ses critiques et justifie le comportement de son personnage narrateur, et par la même occasion son propre comportement, puisqu'il avait lui-même entretenu une liaison avec une femme de soldat pendant la guerre, par leur jeune âge à lui et à son personnage. Il écrit ainsi en préface de ce roman « Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre? Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul, et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. Mais outre ce scandale lié à l'apparition de ce roman, on peut considérer que ce livre donne une bonne représentation, finalement, de ce qu'était la guerre pour les Français loin du front, surtout pour les jeunes qui avaient du mal à saisir la réalité de cette guerre dans les tranchées, notamment du fait du peu de contact entre le front et l'arrière. Plus qu'une fracture entre l'artiste et la société, ce roman serait donc le signe d'une fracture dans la société elle-même, dans ce début des années 20, entre ceux qui avaient connu la guerre et ceux qui ne l'avaient pas connue. Cette fracture qui peut se lire dans ce passage où la futilité des sentiments amoureux ne laisse rien présager du contexte de guerre dans lequel se trouve alors le pays. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête, » lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvaient son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle aux cheveux d'albinos et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière, entre les grangiers. Mes frères, eux, bâillaient, avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répondit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux, des fleurs stylisées. Je jugeais bon, pour la première fois, de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. « Vous ressemblez peu à madame votre mère, » lui dis-je. C'était un madrigal. On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman, lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. Je fus attristé de cette réponse, et je priai Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère. En voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible, et ne comprenant pas que pénible, elle ne pouvait l'être que pour moi, puisque heureusement Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux, je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffé, moi. Vous pourrez le demander à maman, comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard et je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches. J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine. Charmé de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne, j'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Marthe leur en voulait que ce fût par tendresse. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait, et s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les fleurs du mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la première surprise désagréable, je me félicitais de son étroitesse, d'autant mieux que j'eusse craint, s'il avait lui aussi goûté les fleurs du mal, que leur futur appartement ressemblât à celui de la mort des amants. Je me demandais ensuite ce que cela pouvait bien me faire. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposais de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent, mais, craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priais de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais des cours de gymnastique pour me rendre à la grande chaumière, car je ne voulais pas qu'elle pût se figurer que je cachais à l'académie à mes parents parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous, et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. Mais bien sûr, fut-il, ce passage ne l'est pas pour le narrateur qui fait ici ses premiers pas dans l'amour, et où pointe déjà son caractère manipulateur et possessif, lui qui se permet de critiquer la coiffure d'une femme plus âgée et fiancée qui plus est. Et fiancé à un soldat dont la mention nous rapporte à la réalité du front et de la guerre, qui était autrement absente de ce passage. Ainsi, le soldat est avant tout vu par le narrateur comme un ennemi, un rival dans sa course à l'amour de Marthe, avant d'être vu comme un défenseur de la patrie en danger. Cette vision découle de la jeunesse du narrateur, qui n'est encore qu'un adolescent, comme le montre l'interdiction qui lui est faite par ses parents de voir des femmes nues. Une jeunesse d'ailleurs partagée par Marthe, qui n'a que quelques années de plus que lui et dont on sent bien la dépendance tant à l'égard de ses parents qu'à l'égard de son fiancé, pourtant sur le front. Néanmoins, l'un comme l'autre s'émancipe de leur tutelle en mentant à leurs parents et à leur entourage, notamment Marthe qui lit Baudelaire malgré l'interdiction de Jacques. Le poème de Baudelaire cité par le narrateur, La mort des amants, prédisant d'ailleurs une issue tragique à leur liaison naissante. Suite à cette première rencontre, le narrateur et Marthe vont donc développer une véritable liaison au fil de leur rencontre à Paris. Dans cette liaison naissante, le véritable caractère de l'un et de l'autre va se révéler, et notamment le caractère possessif et jaloux du narrateur, dont l'extrait précédent esquissait déjà les premiers signes. Malgré cela, un soir, le narrateur décide de quitter le domicile familial pour rendre une visite surprise à Marthe, sur fond de jalousie puisque cela se déroule alors que Jacques a une permission, et il se retrouve finalement chez elle, trempé par la pluie. Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine, pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nu sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda. C'était fou de rester nu. Il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis, Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille. Un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée fort possible de ce soldat, puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandais d'éteindre, car même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement. « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse, et, ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvais avec le trouble de tout à l'heure, avant d'entrer chez Marthe. Mais comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi, mais la minute où nous nous désenlaçâmes et ses yeux admirables valaient bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartînt à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois, je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme, la jalousie. J'en voulais à Marthe parce que je comprenais à son visage reconnaissant tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari, c'eût été chimère enfantine. Mais ce vœu devenait presque aussi criminel que si j'eusse tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme commet le crime à notre place. Parole terrible du narrateur qui dit « Je devais à la guerre mon bonheur naissant », qui nous rappelle que plus qu'une simple toile de fond, la guerre est la condition sine qua non de la relation entre Marthe et le narrateur, et donc du roman lui-même. Mais cette guerre, comme la liaison qu'elle permet, ne sont pas vouées à durer éternellement. Et c'est ce dont se rend compte ici le narrateur qui éprouve de la jalousie face à la relation que Marthe entretient avec Jacques, et qui en substance commence à craindre l'éventualité que ce dernier ne survive à la guerre. Une crainte renforcée par la permission de Jacques, quelques jours plus tard, qui va éloigner les deux amants temporairement et laisser au narrateur tout le temps de cogiter et d'imaginer le pire. Après le retour de Jacques sur le front, la liaison va connaître une accalmie, mais elle est de plus en plus connue dans l'entourage des deux protagonistes, et si cela ne dérange pas le narrateur qui se trouve presque gratifié d'avoir réussi à séduire une femme plus âgée, Marthe, elle, est mise au ban de la bonne société, comme la femme adultère qu'elle est, dans une logique de rejet qui n'est pas sans rappeler le rejet suscité par le roman à sa parution. Ce déséquilibre va contribuer à conflictualiser cette relation avant qu'un événement ne vienne tout changer. La grossesse de Marthe, qu'elle cache au début à son amant qui finira par l'apprendre, et pour cause, c'est de lui qu'elle serait enceinte. Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte. J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle, mais d'abord elle me stupéfia. N'ayant jamais pensé que je pouvais devenir responsable de quoi que ce fût, je l'étais du pire. J'enrageais aussi de n'être pas assez homme pour trouver la chose simple. Marthe n'avait parlé que contrainte. Elle tremblait que cet instant qui devait nous rapprocher nous séparât. Je m'y mets si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent. Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise, et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notre amour, qu'il ne punissait aucun crime. Alors que Marthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que je ne la quittasse jamais, cette grossesse me consterna. À notre âge, il me semblait impossible, injuste, que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse. Pour la première fois, je me rendais à des craintes d'ordre matériel. Nous serions abandonnés de nos familles. Aimant déjà cet enfant, c'est par amour que je le repoussais. Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusse été moi-même incapable de la vivre. L'instinct est notre guide, un guide qui nous conduit à notre perte. Hier, Marthe redoutait que sa grossesse nous éloignât l'un de l'autre. Aujourd'hui, qu'elle ne m'avait jamais tant aimé, elle croyait que mon amour grandissait comme le sien. Moi, hier, repoussant cet enfant, je commençais aujourd'hui à l'aimer, et j'ôtais de l'amour à Marthe de même qu'au début de notre liaison, mon cœur lui donnait ce qu'il retirait aux autres. Maintenant, posant ma bouche sur le ventre de Marthe, ce n'était plus elle que j'embrassais, c'était mon enfant. Hélas, Marthe n'était plus ma maîtresse, mais une mère. Je n'agissais plus jamais comme si nous étions seuls. Il y avait toujours un témoin près de nous, à qui nous devions rendre compte de nos actes. Je pardonnais mal ce brusque changement dont je rendais Marthe seule responsable, et pourtant je sentais que je lui aurais moins encore pardonné si elle m'avait menti. À certaines secondes, je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour, mais que son fils n'était pas le mien. Comme un malade qui recherche le calme, je ne savais de quel côté me tourner. Je sentais ne plus aimer la même Marthe, et que mon fils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui de Jacques. Certes, ce subterfuge me consternait. Il faudrait renoncer à Marthe. D'autre part, j'avais beau me trouver un homme, le fait actuel était trop grave pour que je me rengorgeasse jusqu'à croire possible une aussi folle, je pensais une aussi sage existence. Car enfin, Jacques reviendrait. Après cette période extraordinaire, il retrouverait, comme tant d'autres soldats trompés à cause des circonstances exceptionnelles, une épouse, triste, docile, dont rien ne décèlerait l'inconduite. Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait son contact aux vacances. Ma lâcheté l'en supplia. De toutes nos scènes, celle-ci ne fut ni la moins étrange ni la moins pénible. Je m'étonnais du reste de rencontrer si peu de lutte. J'en eus l'explication plus tard. Marthe n'osait m'avouer une victoire de Jacques à sa dernière permission et comptait, feignant de m'obéir, se refuser au contraire à lui, à Granville, sous prétexte des malaises de son état. Tout cet échafaudage se compliquait de dates dont la fausse coïncidence, lors de l'accouchement, ne laisserait de doute à personne. « Bah !» me disais-je, « nous avons du temps devant nous. Les parents de Marthe redouteront le scandale. Ils l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle. » On voit bien dans ce passage le trouble de ce couple face à cette grossesse. Marthe sera donc envoyée à la campagne pour cacher ce début de grossesse et justifier cette dernière par la présence de Jacques avec elle à la campagne. Et pendant ce temps, le narrateur va tromper Marthe dans sa propre maison avec une de ses amies, ce que Marthe finira par apprendre. Quelques jours après, je reçus une lettre de Marthe. Elle en contenait une de son propriétaire, lui disant que sa maison n'était pas une maison de rendez-vous, quel usage je faisais de la clé de son appartement, où j'avais emmené une femme. « J'ai une preuve de ta traîtrise », ajoutait Marthe. « Elle ne me reverrait jamais. Sans doute souffrirait-elle, mais elle préférait souffrir que d'être dupe. Je savais ces menaces anodines, et qu'il suffirait d'un mensonge ou même au besoin de la vérité pour les anéantir. Mais il me vexait que dans une lettre de rupture, Marthe ne me parla pas de suicide. Je l'accusais de froideur. Je trouvais sa lettre indigne d'une explication. Car moi, dans une situation analogue, sans penser au suicide, j'aurais cru par convenance en devoir menacer Marthe. Trace indélébile de l'âge et du collège, je croyais certains mensonges commandés par le code passionnel. » Et on voit dans ce passage toute la perversité du narrateur, mais malgré cela, et malgré cette tromperie, les amants vont se réconcilier et vivre quelques mois ensemble à Paris. Mais la surveillance des propriétaires de Marthe dans son appartement les contraint à chercher un hôtel, dans une scène dans laquelle on peut trouver une certaine dose de pathétique pour nos deux personnages. Où dormir ? Nous étions des enfants, debout sur une chaise, fiers de dépasser d'une tête les grandes personnes. Les circonstances nous hissaient, mais nous restions incapables. Et si, du fait même de notre inexpérience, certaines choses compliquées nous paraissaient toutes simples, des choses très simples, par contre, devenaient des obstacles. Nous n'avions jamais osé nous servir de la garçonnière de Paul. Je ne pensais pas qu'il fût possible d'expliquer à la concierge, en lui glissant une pièce, que nous viendrions quelquefois. Il nous fallait donc coucher à l'hôtel. Je n'y étais jamais allé. Je tremblais à la perspective d'en franchir le seuil. L'enfance cherche des prétextes. Toujours appelée à se justifier devant les parents, il est fatal qu'elle mente. Vis-à-vis même d'un garçon d'hôtel borgne, je pensais devoir me justifier. C'est pourquoi, prétextant qu'il nous faudrait du linge et quelques objets de toilette, je forçais Marthe à faire une valise. Nous demanderions deux chambres. On nous croirait frères et sœurs. Jamais je n'oserais demander une seule chambre. Mon âge, l'âge où l'on se fait expulser des casinos, m'exposant à des mortifications. Le voyage, à 11h du soir, fut interminable. Il y avait deux personnes dans notre wagon. Une femme reconduisait son mari, capitaine, à la gare de l'Est. Le wagon n'était ni chauffé ni éclairé. Marthe appuyait sa tête contre la vitre humide. Elle subissait le caprice d'un jeune garçon cruel. J'étais assez honteux, et je souffrais pensant combien Jacques, toujours si tendre avec elle, méritait mieux que moi d'être aimé. Je ne pus m'empêcher de me justifier à voix basse. Elle secoua la tête. « J'aime mieux, murmura-t-elle, être malheureuse avec toi qu'heureuse avec lui. » Voilà de ces mots d'amour qui ne veulent rien dire, et que l'on a honte de rapporter, mais qui, prononcés par la bouche aimée, vous enivrent. Je crus même comprendre la phrase de Marthe. Pourtant, que signifiait-elle au juste? Peut-on être heureux avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Et je me demandais, je me demande encore si l'amour vous donne le droit d'arracher une femme à une destinée, peut-être médiocre mais pleine de quiétude. J'aime mieux être malheureuse avec toi. Ces mots contenaient-ils un reproche inconscient? Sans doute, Marthe, parce qu'elle m'aimait, connut-elle avec moi des heures dont avec Jacques elle n'avait pas idée? Mais ces moments heureux me donnaient-ils le droit d'être cruel? Nous descendîmes à la Bastille. Le froid, que je supporte parce que je l'imagine la chose la plus propre au monde, était, dans ce hall de la gare, plus sale que la chaleur dans un port de mer, et sans la gaieté qui compense. Marthe se plaignait de crampes. Elle s'accrochait à mon bras, couple lamentable oubliant sa beauté, sa jeunesse, honteux de soi comme un couple de mendiants. Je croyais la grossesse de Marthe ridicule et je marchais les yeux baissés. J'étais bien loin de l'orgueil paternel. Nous errions sous la pluie glaciale entre la Bastille et la gare de Lyon. À chaque hôtel, pour ne pas rentrer, j'inventais une mauvaise excuse. Je disais à Marthe que je cherchais un hôtel convenable, un hôtel de voyageurs, rien que de voyageurs. Place de la gare de Lyon, il devint difficile de me dérober. Marthe m'enjoignit d'interrompre ce supplice. Tandis qu'elle attendait dehors, j'entrais dans un vestibule espérant je ne sais trop quoi. Le garçon me demanda si je désirais une chambre. Il était facile de répondre oui. Ce fut trop facile, et cherchant une excuse comme un rat d'hôtel pris sur le fait, je lui demandai Madame Lacombe. Je la lui demandai rougissant et craignant qu'il me répondît. « Vous moquez-vous, jeune homme ? Elle est dans la rue. » Il consulta des registres. Je devais me tromper d'adresse. Je sortis, expliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nous n'en trouverions pas dans le quartier. Je respirais. Je me hâtais comme un voleur qui s'échappe. Tout à l'heure, mon idée fixe de fuir ces hôtels où je menais Marthe de force m'empêchait de penser à elle. Maintenant, je la regardais, la pauvre petite. J'en retins mes larmes, et quand elle me demanda où nous chercherions un lit, je la suppliais de ne pas en vouloir à un malade et de retourner sagement, elle agit, moi chez mes parents. Malade, sagement. Elle fit un sourire machinal en entendant ces mots déplacés. Une nuit d'amour entre les amants qui n'y aura donc pas lieu et qui préfigure la fin de cette relation ainsi que la fin du roman. En effet, après cette escapade à Paris, Marthe restera malade et alitée. Puis vint l'armistice, la fin de la guerre et le retour de Jacques. L'enfant prévu pour mars naîtra en janvier, signe pour le narrateur qu'il était en réalité de Jacques et pas de lui. Cependant, cet enfant pourrait simplement être prématuré comme semble le penser un médecin demandant sa mise sous couveuse. Ce mystère autour de la paternité de l'enfant reste entier, et l'auteur ne tranche pas, même si le narrateur se persuade finalement qu'il est bien de lui. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce n'est pas lui qui l'élèvera. En effet, Marthe meurt à la fin du roman, et laisse l'enfant à la garde de Jacques, tout autant persuadé d'être son père que le narrateur. C'est donc sur une énigme non résolue que se conclut ce roman, ainsi que sur la presque réalisation de la prophétie affichée au début par le poème baudelairien « La mort des amants ». Puisque seule Marthe est morte dans ce cas, peut-être victime d'une punition divine pour son comportement, ou plus probablement morte après une grossesse compliquée. Le mystère entoure donc tout ce livre du diable au corps, qui au-delà du scandale provoqué à sa parution est donc un reflet riche de la complexité d'un premier amour adolescent, le tout sur fond du contexte de la Grande Guerre. J'espère vous avoir donné l'envie de lire, et je vous remercie de nous écouter sur Radio Shalom Bourgogne.
L'envie de lire.
Radio Shalom, Dijon.